Chapitre 4. Le rideau tombe. Tout le reste du jour et pendant la nuit, je fus tenu prisonnier dans ma chambre, sous la garde d'un homme sur la fidélité duquel mon père pouvait compter. Le lendemain matin, j'essayai de m'échapper, mais je fus découvert avant d'avoir pu quitter la maison. Confiné de nouveau dans ma chambre, j'imaginai d'écrire à Marie et de glisser ma lettre dans les mains complaisantes de la domestique qui me servait. Inutile, il n'y avait pas à mettre en défaut la vigilance de mon père. La domestique fut soupçonnée et suivie, et on lui arracha la lettre. Mon père la déchira de ses propres mains. Plus tard, dans la journée, on permit à ma mère de me voir. Elle était absolument incapable, pauvre âme, d'intercéder pour moi ou de servir, en quoi que ce fût, mes intérêts. Mon père l'avait complètement anéantie, en lui annonçant que sa femme et son fils devaient l'accompagner lorsqu'il retournerait en Amérique. « Tout ce qu'il possède au monde, me dit ma mère, doit être jeté dans cette odieuse spéculation. Il s'est procuré de l'argent à Londres, il a loué sa maison pour 7 ans à un riche négociant, il a vendu notre argenterie et les bijoux qui me venaient de sa mère. La terre d'Amérique engloutit tout. Nous n'avons plus de domicile, Georges, et nous sommes forcés de l'accompagner. » Une heure après, la chaise de poste était à la porte. Mon père me conduisit lui-même à la voiture. Je lui échappai avec une fureur à laquelle sa résolution ne put résister. Je courus, je volai le long du sentier qui conduisait au cottage de Dermodet. La porte était ouverte, la salle était vide. J'entrai dans la cuisine, je montai dans les chambres du haut. Partout, la solitude. Le régisseur avait quitté la place et sa mère et sa fille l'avaient accompagné. Nul ami ou voisin ne rôdait autour avec un message, nulle lettre ne m'attendait, nulle indication ne m'était laissée sur la direction qu'ils avaient prise lors de leur départ. Après les paroles insultantes que lui avait adressées son maître, Dermody avait mis son orgueil à ne laisser de sa présence aucune trace que l'on eût pu considérer comme une marque destinée à nous rapprocher, Marie et moi. Il ne me restait, pour me parler de ma chérie perdue, d'autres souvenirs que le pavillon qu'elle m'avait brodé de ses mains. Les meubles se trouvaient encore dans le cottage. Je m'assis dans notre coin habituel, à côté de la chaise vide de Marie. Je contemplai de nouveau le joli pavillon vert et je fondis en larmes. Un léger attouchement m'arracha à ma prostration. Mon père avait consenti à charger ma mère de la responsabilité de me ramener à la voiture de voyage. « Nous ne trouverons pas Marie ici, Georges, me dit-elle doucement, et nous pourrons avoir de ses nouvelles à Londres. Venez avec moi. » Je me levai et lui donnai silencieusement la main. En sortant, mon œil fut attiré par quelque chose de noir tracé au bas du montant blanc de la porte. Je me baissai et je découvris quelques lignes au crayon. Je regardai de plus près, c'était l'écriture de Marie. Les caractères informes et enfantins reproduisaient ses derniers mots d'adieu. « Au revoir, cher, n'oubliez pas Marie. » Je m'agenouillai et je baisai l'écriture. Cela me réconforta, c'était comme un serrement de main d'adieu de Marie. Je suivis tranquillement ma mère à la voiture. Nous arrivâmes à Londres pendant la nuit. Ma bonne mère fit pour me consoler tout ce que lui permettait, dans sa position, la tendresse la plus compatissante. Elle écrivit en secret aux avoués de sa famille en leur envoyant le signalement de Dermody, de sa mère et de sa fille, pour les prier de s'enquérir d'eux dans les différents bureaux de voitures de Londres. Elle s'adressa également à deux parents de Dermody qui vivaient dans la cité et qui pouvaient posséder quelques renseignements sur ce qu'il était devenu en quittant le service de mon père. Cela fait, elle avait accompli tout ce qui était en son pouvoir. Nous n'avions ni l'un ni l'autre assez d'argent pour faire insérer des avis dans les journaux. Une semaine après, nous partîmes pour les États-Unis. Pendant cet intervalle, je vis deux fois les avoués et deux fois je fus informé par eux que les recherches n'avaient pas abouti. Ici se termine la première époque de l'histoire de mes amours. Pendant les 10 longues années qui suivirent, je ne revis pas ma petite Marie, Je ne sus même pas si elle avait vécu, oui ou non, pour devenir femme. Je conservais toujours le pavillon vert avec la colombe brodée dessus. Pour le reste, le fleuve de l'oubli avait englouti les jours dorés de Green Water Broad.